Notre virée à Brooklyn a été le dernier bon après-midi que nous ayons passé ensemble.
Nous ne rions plus ensemble, plus jamais, c'est
et
là le problème.
Et puis je deviens maussade et mal dans ma peau.
Vous avez des rapports sexuels fréquents?
Coïts fréquents?
J'arrive à peine, je sais pas, à 3 par semaine.
Continuel, en tout cas 3 fois par semaine. Tiens, l'autre soir, Alvi a voulu faire l'amour.
Elle n'a pas voulu faire l'amour avec moi l'autre nuit.
Vous je ne sais pas ce que j'ai, c'est vraiment, il y a 6 mois, j'aurais dit oui, ne serait-ce que pour lui faire plaisir.
Franchement, mais... j'ai tout essayé, tout, de la musique douce en fond sonore, mes petites ampoules rouges pour l'ambiance.
Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que grâce aux discussions que j'ai avec vous, je revendique mon identité réelle.
Il y a quand même une chose que je ne digère pas. Vous avouerez que c'est un con. C'est moi qui paye son analyse et c'est elle qui fait les progrès. Alors c'est encore moi qui l'ai dans le cul.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous moi, savez, j'ai mauvaise conscience parce que c'est Alvi qui paye toutes mes séances chez vous.
Moi, je fais des
alors j'ai mauvaise conscience de refuser de faire l'amour avec lui. Mais si par contre j'accepte de faire l'amour avec lui, moi je vais contre mes sentiments.
Alors que moi, de mon côté,
c'est
quand
les liens, ce va-et-vient permanent.
Ses progrès sont un défi à mes progrès.
Il m'arrive de me dire que je devrais vivre avec une femme.
Voilà, chacun son divan. Ici Woody Allen et Diane Keaton, chacun de son côté dans Annie Hall. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, femmes et psychanalyse, les liaisons amoureuses. On en parle avec notre invitée Sarah Chiche, écrivaine et psychanalyste pour Une histoire érotique de la psychanalyse, de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. Son ouvrage essai qui vient de paraître chez Payot. Une histoire de l'amour aussi en psychanalyse et une histoire féminine qui revient sur le rapport des femmes au désir et sur leur rôle fondateur, les présentant à la fois comme inspiratrices, créatrice et théoricienne presque de la discipline. En une cinquantaine d'histoires, l'ouvrage retrace notre rapport à la psychanalyse et donc au sexe, à l'amour et à la liberté. Rien que ça, Sarah Chiche, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, pas comme Thielman est resté avec nous, invité depuis midi pour Sycomore, Sycamour, aux presses universitaires de France. L'amour sur le divan, rebonjour, pas comme Thielman.
Rebonjour.
Parce qu'il a mal cet amour, hein, depuis midi, vous nous le disiez. Et à midi et demi, juste avant de se quitter, pas comme Thielman nous a laissé sur un échec nécessaire, une douleur qui n'est jamais sans lendemain, un chagrin qui n'est que la nuit qui précède la lumière de l'aube. Sarah Chiche, est-ce que le chagrin d'amour n'est pas au fond surtout un éternel recommencement, à ne jamais voir comme une fin?
Oui, je crois que de toute façon, l'amour est peut-être la seule maladie dont on répugne à guérir, dût-il parfois nous mener jusqu'aux portes de la mort. Alors Pacôme Thielman parlait de ce labyrinthe de douleur que l'on retrouve d'un amour à l'autre et qui fait que quand bien même on pense qu'on aurait tout pour être heureux en rencontrant quelqu'un, eh bien parfois le germe de la haine est planté dès le départ dans l'amour, un peu comme une pomme pourrie est plantée dès le départ dans l'Éden d'une rencontre. Cependant, je crois que on peut sortir de ce labyrinthe de douleur. Oui, on peut sortir de ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, la compulsion de répétition.
Grâce à la psychanalyse, au fond, que peut la psychanalyse face à l'amour, face à cette déflagration universelle? Est-ce qu'elle a un savoir supérieur?
Je crois qu'en tout cas que la psychanalyse a ceci de commun avec la littérature, j'entends par là la vraie littérature, et non pas tous ces petits bouquins qui veulent nous faire du bien avec des fins heureuses. La psychanalyse nous aide à penser la part de ténèbres qu'il y a dans le monde et la part de ténèbres que nous recelons tous, qu'il y a en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que... on n'est pas que lumière, hein. On est fait d'obscurité et de lumière. Donc au fond, Freud, il n'est pas sûr que depuis que la psychanalyse existe, nous fassions l'amour ou nous aimions de façon différente. Je ne crois pas que la psychanalyse ait inventé une nouvelle érotique. En revanche, ce qu'elle permet, c'est de penser deux choses. D'une part, le conflit entre l'amour et le désir sexuel. On n'a pas toutes et pas tous la même façon de se situer face à ça. Par exemple, certaines personnes ne peuvent aimer ce qu'elles désirent et ne peuvent désirer ce qu'elles aiment. Hein ? Pourquoi? Quel problème pose ce clivage? C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans la littérature. Hein. Vous pensez à Madame Bovary chez Flaubert, voilà, chez Stendhal, dans La peau de chagrin, on retrouve toutes ces choses-là. La deuxième chose que permet la psychanalyse, c'est de penser, contrairement aux livres de développement personnel et à leur optimisme nauséabond, la psychanalyse permet de penser le renversement de l'amour dans la haine. Hein, pourquoi? Parce que dès l'instant où on aime quelqu'un, on se lie à lui, on s'attache à lui. Hein, et donc s'attacher à l'autre, c'est mettre à mal quelque chose de notre autonomie si précieuse. Et s'attacher à un autre ou à une autre, c'est aussi prendre le risque de la perdre un jour. Ouais. C'est pour ça qu'une histoire d'amour, c'est toujours une histoire de deuil, au fond.
Je vois ce que vous percevez comme une sorte de dévoiement dans la littérature d'épanouissement personnel. Après, on peut aussi se dire qu'elle peut faire du bien à certains, ou qu'elle peut aussi peut-être simplement faire moins de mal qu'une psychanalyse ou une analyse peut aussi retourner, chambouler énormément les personnes qui s'y prêtent. Mais c'est encore peut-être un autre débat. Paco Mthielman, vous avez fait votre analyse, finalement, devant l'écran, ou en vous replongeant dans toute cette littérature qui est celle de Shakespeare. Est-ce que vous auriez confié votre mal d'amour entre les mains d'un psychanalyste?
Ah, mais c'est... En fait, c'est deux choses, je crois, assez différentes. Alors, si je dois rentrer dans un truc très personnel, en fait, j'ai une psychanalyste. Donc, c'est presque... Ce que j'ai fait, c'est plus c'est de l'exégèse. Et je différencierais l'exégèse de l'analyse. Et c'est pas pour du tout par manque de respect pour l'analyse, puisque c'est pas du tout un outil que j'emploie dans mes textes et que c'est pas un instrument avec lequel je travaille. Mais disons que l'exégèse étant donné, l'idée de l'exégèse, c'est que on s'attache à quelque chose qui est sacré. Donc en fait, en prenant mon mal d'amour comme un mal sacré ou comme un mal divin, je l'ai traversé avec l'exégèse. Tandis que je pense que la psychanalyse, ce n'est pas son registre, on va dire métaphysique, quoi.
Je reste sur le mal d'amour et le chagrin d'amour, Sarah Chiche. Comment se réinventer après un échec amoureux? C'est l'un des cas ou l'une des figures que vous abordez dans cet ouvrage, dans votre histoire érotique de la psychanalyse. Est-ce qu'avant de s'y mettre, vous voulez juste nous dire ce que vous avez mis derrière ce mot érotique?
Ce que veut dire érotique?
Ce que vous placez derrière, oui. Exactement.
Je crois que Freud, en tout cas... ne sépare jamais la question de l'érotique, c'est-à-dire du désir sexuel, de la question de l'amour. Donc une histoire érotique de la psychanalyse, ça n'est rien d'autre qu'une histoire de l'amour et des façons que nous avons, que chacun d'entre nous a de s'arranger entre l'amour et le désir. Alors oui, j'ai voulu ouvrir ce livre sur la question comment se réinventer après un chagrin d'amour. Parce qu'elle me paraît, tout à fait importante. Elle fait écho à ce que raconte Paco Mthielman dans son livre. En prenant le cas de Bertha Pappenheim, qui a été plus connue sous le nom de Anna O, c'est une patiente de Joseph Breuer, un collègue de Freud, et c'est une patiente dont on retrouve le cas dans les études sur l'hystérie, qui sont publiées en 1895, ouvrage qui marque vraiment la naissance de la psychanalyse. Alors, quand elle arrive sur le divan de Breuer, c'est une jeune femme qui est en proie à des hallucinations. Elle voit des serpents, elle est prise de transe. Son père, à l'époque, est extrêmement malade. Elle est en permanence à son chevet. Quand elle n'est pas à son chevet, c'est sur le divan de Breuer qu'elle se retrouve. À force de se retrouver sur ce divan, sur le divan de ce médecin extrêmement prévenant, elle finit par s'y attacher considérablement. Mais Breuer aussi s'y attache, puisqu'il n'hésite pas à voir sa patiente plusieurs fois par jour, voire même, parce que c'est thérapeutique, estime-t-il, l'emmener en promenade auprès de sa propre fille. Hein, ce qui devait arriver arriva, et c'est comme cela que l'on découvre les ravages du transfert et du contre-transfert. Le jour où Breuer se rend compte que sa patiente est si attachée à lui qu'il faut arrêter les choses là, elle déclenche des hallucinations terrifiantes. Et là, nous dit-on, Breuer prend la fuite. Aussi parce que sa femme, à lui, commençait à râler. Donc, on perd Bertha Pappenheim, Anao, malade d'amour, totalement enténébrée, totalement mise en pièces par cet attachement mortel, hein, causé, pour le coup, pour rebondir sur votre question, oui, la psychanalyse peut faire du mal parfois, enténébrée par cet amour-là. Mais ce qui est génial, c'est qu'on la retrouve quelques années plus tard, totalement réinventée. Voilà une femme qui sort de cette mise en pièces, en renaissant à la vie. Elle se met à écrire, sous un pseudonyme masculin, des contes pour enfants. Au moment où son père meurt enfin, elle se dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose de cette fortune? Parce que l'argent peut être tout autant une malédiction qu'une grâce. Et donc, elle décide d'ouvrir des centres pour mères célibataires et pour enfants abandonnés. Et donc, elle devient une féministe acharnée et la première travailleuse sociale. Bertha Pappenheim, c'est la créatrice du travail social. Et elle ouvre des centres un peu partout, en Égypte, à Varsovie, pour venir en aide aux plus démunis. Eh bien, je trouve que cette façon de se réinventer, de se reconstruire, après avoir été fracassée par l'amour, est tout à fait remarquable.
Alors, en quoi le transfert que vous venez d'évoquer avec ce cas est aussi un cas d'école? Vous reprenez notamment la métaphore freudienne du théâtre qui prend feu, avec cette irruption de l'éros dans le Thanatos. C'est quand même, vous pouvez nous raconter l'histoire, qu'on reparte de là.
Quelle histoire?
Dans la métaphore, nous reprendre la métaphore du théâtre qui prend feu et de l'alarme de l'incendie qui se déclenche.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, tout amour est une fiction. Est une fiction romanesque où quand on tombe amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux du grand théâtre qu'il porte en lui et du grand théâtre d'ombre de tous nos morts et des gens qu'on aime et qui sont vivants et que l'on porte en soi. Et donc, il y a toute une fiction et l'amour de transfert, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout à coup, à force de se raconter à un autre, on se prend à croire que cet autre nous voit par là où on ne peut pas se voir, qu'il nous comprend, qu'il nous connaît mieux que quiconque, et que, au fond, alors qu'on ne se trouve pas du tout aimable, cet autre qui nous écoute nous trouve aimable.
C'est même ça qui est parfait dans l'amour, c'est ce sentiment d'aimer ou d'être aimé par quelqu'un qui sait vraiment ce que je suis.
Exactement, et dès l'instant, et c'est là que l'illusion de l'amour de transfert peut arriver, illusion tout à fait nécessaire dans une cure, mais illusion tout de même parce que cet amour de transfert, il ne s'adresse jamais à la personne du psychanalyste. Ce qu'il vise, cet amour de transfert, c'est un autre, une autre, qui se cache derrière l'analyste. Alors, ça peut être un parent, ça peut être une grand-mère, ça peut être que sais-je. Simplement, l'erreur est d'estimer qu'il s'agit là d'une réalité. Et soudain, le théâtre prend feu, c'est-à-dire que soudain, la douceur mélancolique du sourire de l'analyste, ou alors sa façon de pencher la tête, ou sa façon de serrer la main, eh bien, va allumer chez le patient quelque chose d'une alarme qui va lui rappeler un trait qu'il a aimé chez un objet perdu.
Sarah Chiche, pourquoi sur le divan, hommes et femmes ne sont pas forcément égaux? Est-ce que vous diriez que les femmes ont plus que les hommes subi le poids des normes, que la libération sexuelle qui était censée nous profiter à tous et donc à toutes de la même manière, a peut-être aussi créé de nouvelles normes où on a déplacé d'autres qui n'ont pas remis femmes et hommes sur un terrain d'égalité, sur un divan d'égalité chez le psy.
Je vous répondrai peut-être par un autre biais. Alfred Hitchcock, qui était réputé pour sa misogynie, dit que les femmes sont d'excellents médecins jusqu'à ce qu'elles tombent amoureuses et qu'ensuite elles font les meilleures patientes. C'est d'une misogynie absolument dégoûtante. Je crois qu'au contraire, de par leur courage, bien des femmes montrent que c'est après avoir intensément aimé et intensément souffert qu'elles, c'est-à-dire après avoir approché quelque chose de la mort, au fond, on peut devenir détentrice d'un savoir sur les choses de l'amour. Et donc, peut-être être mieux à l'écoute des personnes qui souffrent de maux d'amour. Ce que j'ai observé en travaillant à ces histoires des femmes depuis le temps de Freud jusqu'à nos jours, c'est qu'en effet, par exemple, si on parle de Sabina Spielrein, elle a certes été tout à fait fracassée par sa rencontre avec Jung, mais elle en est sortie après en devenant une très bonne analyste. On oublie, du fait du film de Cronenberg, on connaît aujourd'hui bien l'histoire de Sabina Spielrein, qui était la maîtresse de Jung, lequel l'a soignée dans un premier temps, puis après l'a quittée pour retourner auprès de sa femme. Mais on sait moins que Sabina Spielrein a formé Jean Piaget, et Jean Piaget, c'est un grand psychologue de l'enfance. Voilà, donc au fond, ce que je voulais saluer, c'est le courage de ces femmes, ces héroïnes, et ces femmes anonymes aussi, qui arrivent, qui ont peut-être un savoir particulier, oui, sur la douleur, qui est différent de celui des hommes, et qui fait que quand elles arrivent à se reconstruire, elles le font avec... Je suis désolée de le dire, mais oui, avec un courage et une dignité encore plus grande.
Mais ce sont aussi ces femmes qui ont fait les psychanalystes que l'on connaît. Vous revenez bien sûr à Freud et à Lacan. Freud avec le cas de la femme hystérique et Freud surtout avec celui de sa nourrice, sa professeure de sexualité, oui, comme il l'a nommé. Ouais. Et puis on peut parler de Lacan avec la figure d'Aimé, sa première patiente, parano et érotomane. C'est aussi à travers des cas féminins qu'ils ont développé leurs écrits et leurs pensées.
Bien sûr, alors j'ai trouvé cette histoire assez étonnante de Freud qui parle de sa nourrice, dont on ne connaît pas le nom avec certitude, mais qui a été son initiatrice, son professeur de sexualité. On est à la fin du 19e siècle, dans un petit village de l'Empire austro-hongrois. La mère de Freud enchaîne les grossesses et donc elle n'a pas toujours la possibilité de s'occuper de son fils. Et donc il se retrouve à partir de 2 ans avec une nounou, laquelle, racontera-t-il, le lave parfois dans un bain rouge du sang de ses règles, vraisemblablement. C'est comme cela que Freud fantasme l'initiation faite par sa nourrice. Alors c'est une image, je vous vois un peu perplexe, c'est une image assez sidérante. S'agit-il d'une reconstruction, hein, d'un souvenir écran ou alors d'une réalité? Toujours est-il que c'est pour Freud une façon de raconter que c'est par les femmes en quelque sorte qu'il a été initié à la sexualité. Aimé, c'est une patiente érotomane, donc folle d'amour, Lacan va s'intéresser à elle en 1934, il va en faire sa thèse de médecine et c'est en s'intéressant à l'amour fou par le biais de cette femme qu'il va devenir ensuite le psychanalyste que l'on connaît.
Alors les femmes devenues moteurs dans le développement de la psychanalyse, question, est-ce que c'est pas Lacan lui-même qui disait que la femme n'existe pas? Je propose d'écouter une archivina.
Jouissance de l'autre en tant que parasexué. Jouissance pour l'homme de la supposée femme. Et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas. Mais pour une femme, par contre, l'homme qui lui est tout, hélas, il est même tout en sphalique pour cette jouissance de l'autre parasexué qui n'existe pas, ne pourrait, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole d'amour notamment. Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est à partir de là que nous avons accès au réel.
La femme n'existe pas. Lacan nous parle ici de la jouissance de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sarah Chiche, ce qu'il entendait par là?
C'est une manière de nous nier. Ça m'amuse beaucoup que vous me posiez cette question, puisque je passe mon temps à râler contre les excès du jargon psychanalytique. Malgré tout le respect et l'immense admiration que j'ai pour Lacan, ce genre de choses est tout à fait incompréhensible pour un certain nombre d'entre nous, et ça participe, je crois, au discrédit de la psychanalyse aujourd'hui. Néanmoins, qu'est-ce qu'il a peut-être voulu dire en disant « la femme n'existe pas » C'est qu'il n'y a pas, on ne peut pas essentialiser la femme, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'être femme. Il y a bien des façons d'être femme. Et il n'y a pas une seule façon de réagir à la douleur, à l'effroi ou au traumatisme quand on est une femme. Et toutes ces façons de réagir sont respectables. Donc il n'y a pas la femme, hein. Il n'y a pas une cause de la femme. Il y a des femmes qui peuvent être extrêmement solidaires entre elles, évidemment, mais qui ont une infinité de façons de réagir.
Parce que ça laisserait à croire que Lacan serait possiblement misogyne. Est-ce que c'était le cas?
Possiblement. Je ne peux pas, je ne peux pas répondre à cette question. Toujours dit-il, bon, Elisabeth Roudinesco a fort bien montré dans son ouvrage sur Lacan qu'il s'est intéressé. On ne peut pas séparer les élaborations de Lacan sur les femmes de ce qui s'est passé dans sa vie privée. On sait aujourd'hui que c'était un grand libertin, que c'était un grand consommateur de femmes. Misogyne l'était-il ? Ce qu'on sait, c'est qu'il ne pouvait pas se contenter d'un seul objet d'amour, qu'il y avait plusieurs femmes, il avait plusieurs fidélités connexes.
Pas comme tellement. Est-ce que vous avez une question pour Sarah Chiche ?
Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport au livre de Sarah que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'il y a, et ça peut se transformer en question en tout cas, il y a deux figures qui m'ont apparu absolument éclatantes vers la fin du livre. C'est des histoires que je connaissais pas, parce que je connais pas bien l'histoire de la psychanalyse. Mais c'est une en négatif, et j'aimerais bien que Sarah nous en parle un tout petit peu, c'est le cas de Dora Maar. Et une en lumineux de positif absolument, c'est les deux pages bouleversantes sur Anne Dufour-Mantel.
Alors, j'ai découvert cette histoire absolument stupéfiante de Dora Maar, une des maîtresses de Picasso, dans laquelle Lacan a joué un rôle tout à fait actif, et ça m'a sidérée. Picasso rencontre Dora Maar un soir dans un café. Elle est en train de jouer avec un couteau, n'est-ce pas ? Elle a sa main gantée, elle joue avec un couteau à se planter le couteau le plus près possible de ses doigts, ce qui fait que parfois elle saigne légèrement. Picasso, fasciné par cette scène, il la veut et il l'a. Il la séduit, ce qui se passe assez facilement. S'ensuit entre eux une collaboration artistique, puisqu'elle peint aussi, et elle peint drôlement bien. Une collaboration artistique assez fructueuse, mais rapidement, elle se rend compte que elle n'est pas l'unique, pas du tout, dans la vie de Picasso. Et il va jusqu'à, perversement, on va le dire, un jour se présenter à elle avec sa nouvelle maîtresse, Françoise Gillot, je crois. Dora Maar en tombe folle, folle alliée. Elle déclenche une paranoïa. Elle se promène dans les rues quasi nue, se prenant pour une papesse bouddhiste. Elle décompense. Picasso, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle Lacan désespéré, un peu peut-être aussi pour lui demander de le sortir de cette possibilité de scandale. Dora Maar est internée à ce moment-là à Sainte-Anne. Elle subit une série d'électrochocs. Elle pourrait rester là enfermée à vie. Lacan l'en sort et il va la recevoir lors de séances très très soutenues sur le divan. Et l'opération à laquelle Lacan va se livrer, c'est de convertir Dora Maar, parce que son postulat, c'est qu'au fond, après l'amour perdu pour Picasso, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Picasso ? Ben, on peut mettre Dieu. Au fond, il faut quelque chose d'aussi fort, d'aussi haut. Et c'est comme cela que, au cours de son analyse avec Lacan, Dora Maar va devenir une fervente croyante et que sa foi, en quelque sorte, va la sauver. Il fallait cela. Anne Dufour-Mantel, qui s'est tragiquement noyée il y a un an et demi, en voulant porter secours à deux enfants. Oui, ça m'a absolument stupéfaite. Quand j'ai préparé ce livre sur l'amour, j'ai évidemment pensé à Anne Dufour-Mantel, pour qui j'avais une très très grande estime. Et donc j'ai relu « En cas d'amour ». Et à un moment donné de ma relecture d'En cas d'amour, je tombe sur cette histoire stupéfiante où Anne Dufour-Mantel raconte qu'un jour, recevant un patient, elle se met à pleurer. Pourquoi ? Parce que ce patient raconte comment, quand il était enfant, il a été sauvé de la noyade par un homme. Et cet homme qui l'a sauvé de la noyade, des années après, il le retrouve. Et alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre homosexuels, ils vont s'aimer follement pendant 3 jours. Et Anne Dufour-Mantel raconte dans son livre que, alors qu'elle est déjà une analyste tout à fait aguerrie, au moment où ce patient lui raconte comment cet homme l'a sauvée de la noyade, elle se met à pleurer. Et quand on sait
comment dans quelles conditions elle a disparu.
Donc elle avait ce savoir, un savoir sur l'amour et aussi un savoir sur la mort, quasi prophétique, quasi poétique, du fait de sa très très grande sensibilité. Ça m'a bouleversée.
Notre invitée Sarah Chiche aujourd'hui avec l'écrivain Pacôme Thielman. On est ensemble jusqu'à 13h30. Pour l'heure, France Culture, il est 13h20.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
L'amour détruit-il plus les femmes ou les hommes? Qu'est-ce que la psychanalyse et le cinéma peuvent nous dire de cela? Extrait du monologue final de La Maman et la Putain, 1973, signé Jean Eustache.
Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et te faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute.
Je suis bien d'accord.
Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée et qui est heureuse et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari ou par je ne sais quel acteur merdique ou par son crémier ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul?
Voilà, pourquoi est-ce qu'on accorde tous autant d'importance aux histoires de cul? Vous le racontez, Sarah Chiche, dans votre histoire érotique de la psychanalyse. Il y a quelqu'un qui a fait l'économie d'une psychanalyse grâce à ce tournage de La Maman et la Putain.
Oui, c'est Françoise Lebrun qui joue le rôle de Véronica dans ce film de Jean Eustache et qui raconte précisément jouer ce rôle-là et interroger la façon dont les histoires de cul, je cite, sont si importantes pour nous, trop importantes, eh bien l'interroger par la fiction, par le film, ça lui a permis de ne pas se retrouver sur un divan, alors même qu'elle vivait au même moment une histoire très compliquée avec Jean Eustache.
Pas comme tellement.
C'était aussi un chapitre absolument passionnant du livre de Sarah. Et alors après, Jean Eustache, c'est un destin quand même terrible, quoi. c'est quand même un des suicidés les plus effrayants du cinéma français, quoi. Donc, je sais pas si c'est une histoire vraiment transfigurante, La Maman et la Putain. En tout cas, pas pour tout le monde. Et non seulement pas pour lui, mais non plus pour celle qui était sa compagne, qui s'est suicidée après avoir vu le film aussi.
Oui, tout à fait. En tout cas, une question cruciale est posée dans ce film, et c'est une question très freudienne. Pourquoi est-ce que certains hommes ne peuvent aimer ce qu'ils désirent, et dès l'instant où ils désirent, ils n'aiment pas, ils méprisent? Pourquoi est-ce que certains hommes ont une bipartition maman? Il y a la maman d'un côté et la putain de l'autre. La maman qu'on va mettre sur un piédestal et respecter, mais qu'on ne va pas désirer, et la putain que l'on va baiser, mais que l'on ne peut en aucun cas estimer. Alors je trouve que cette vision de Freud est très, je dirais, phallocentrée. Hein, c'est-à-dire que Freud postule que seuls les hommes peuvent souffrir de ce clivage, avoir deux objets au fond. L'un qu'on aime mais qu'on désire pas et l'autre qu'on désire mais qu'on n'aime pas du tout. Or, il se trouve bien des femmes, et ça, le divan nous l'enseigne, il se trouve bien des femmes qui sont dans ce même clivage, hein, qui dès l'instant où elles aiment, elles ne peuvent plus désirer, et dès l'instant où elles désirent follement, elles méprisent. Hein, parce que c'est très très difficile d'être à la hauteur de l'amour, c'est très très difficile de jouir de la personne qu'on aime. Et donc parfois, ben c'est moins coûteux psychiquement d'avoir au fond plusieurs objets d'amour et de désir plutôt que de tout trouver en un seul, parce que ça peut être très angoissant.
Pas comme tellement. Oui. C'est une question que vous soulevez aussi, vous, dans Sycomore, Sycamour. C'est ne peut-on aimer et désirer qu'une seule personne à la fois? Est-ce que l'on peut distinguer les deux?
Tout à fait. Je voulais rajouter par rapport à Sarah que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les fictions et dans les fictions modernes. C'est-à-dire qu'il y a rarement des personnages féminins, surtout dans les séries télévisées, à partir de Buffy. On a la même chose dans Véronica Mars, on a un paquet de séries. Même chose où l'héroïne principale est divisée entre deux hommes. Et alors, le clivage type maman et putain se transforme en clivage gendre idéal bad boy. Et on peut penser même à on a ça dans Buffy entre Angel et Spike, mais on le retrouve, mais vraiment on le retrouve, mais on peut le retrouver partout, ce truc-là.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez Lou Andrea Salomé, hein, une très ardente disciple de Sigmund Freud, vraiment une consoeur et avec qui il avait un dialogue d'égal à égal. Elle s'est faite épouser par un homme qu'elle a choisi, hein, Carl Andreas, qui était à la fois et son premier lecteur et quelqu'un qui lui offrait la sécurité morale dont elle avait tant besoin, moyennant quoi elle a pu vivre toutes sortes de passions, dont, dont une grande passion sexuelle avec Rilke.
Ouais. Et est-ce que là-dedans, il n'y a pas justement, alors ça c'est une question qui me vient maintenant, hein, la même subdivision finalement qu'entre Démiurge et le diable. C'est finalement, s'il n'y a pas la, l'idée de la sécurité ordonnée mais sans plaisir et du plaisir dangereux. Et donc ce truc-là renvoie pas encore à cette, à cette vieille arme de domination du dieu mauvais sur les hommes. Le clivage maman putain, bad boy genre idéal. S'il faut pas chercher l'amour ailleurs, justement.
Je pense qu'effectivement, voilà, une voie possible est de chercher l'amour ailleurs, dans quelque chose qui nous sorte de cette aliénation, hein, et de cette bipartition. À la fin de son livre, oui, Pacôme parle d'amour sans regard pour son fruit. C'est ça, c'est peut-être cette félicité de l'agapé, hein, c'est-à-dire d'un amour très fort, très grand, qui parle en nous, dans chacun des actes qu'on pose, mais qui n'est peut-être attaché à personne en particulier. Mmh. Aimer chacun, chacune, aimer son semblable, aimer l'autre, mais sans craindre de le perdre, aimer sans rien en attendre en retour.
Mmh. Est-ce qu'il y a un drame amoureux pour vous, Sarah Chiche, dans l'amour? Est-ce que, au fond, l'amour n'est qu'une grande tragédie, comme nous le disait Pacôme Thielman?
Je crois que oui. Je crois que oui. C'est une grande tragédie, mais que je place au même titre que le fait d'être né. On n'a absolument pas demandé à être ici. Et parfois, on ne demande pas. Parfois, on peut appeler l'amour de ses vœux, de toutes ses forces. Oui, ça peut être alors un destin, mais parfois, on ne demande pas du tout à ce que ça nous tombe dessus de façon si effractante, si périlleuse. Il y a des gens qui, voilà, veulent se tenir à l'abri de tout ce qui pourrait trop douloureusement les affecter. Oui, il y a un tragique de l'amour, mais il y a un comique de l'amour. Au fond, et Shakespeare le montre très très bien, il y a toujours un moment comique chez Shakespeare, y compris dans les plus grandes tragédies.
En fait, les tragédies et les comédies de Shakespeare, on a l'impression que des fois c'est la même histoire, mais racontée de façon différente. Dans une, on nous épargne la fin sanglante. Dans l'autre, on résume au maximum toute la partie heureuse qui a pu commencer.
Dans tout cela, Pacôme Thielman, vous nous présentiez aussi l'amour comme une malédiction, comme ce manque à combler en permanence. Sarah Chiche, pour finir, qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter? Quel vide vient-elle vraiment remplir? Quel mal prend-elle directement en charge? Au fond, est-ce que faire une analyse ou avoir recours au divan, c'est une manière de tenter d'en guérir ou simplement de combler certains vides?
Je crois que la solution vient peut-être quand on accepte le grand vide en soi. Hein. Et quand on accepte le grand vide en soi et qu'on n'a plus peur de s'y coucher. Dès l'instant où on accepte ce vide en soi, on consent à n'être rien pour rien. Et on découvre qu'on porte un royaume en soi. Hein, et qu'au fond, la solution, oui, la psychanalyse, pour moi, c'est encore aujourd'hui une grande aventure qui permet peut-être d'être enfin à la hauteur de l'amour.
Merci beaucoup, Sarah Chiche. Une histoire érotique de la psychanalyse, de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. C'est à lire chez Payot. Merci à vous mille fois, Pacôme Thielman. Sycomore, Sycamore, votre essai personnel et subjectif, on peut mêler les deux, vient de paraître aux presses une presse universitaire de France. Un voyage donc dans le cinéma, dans la littérature, dans la musique, pour tenter de comprendre ce grand mal qui nous occupe. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutech pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci aussi à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Audrey Guélil. Très bel après-midi à tous sur France Culture.
France Culture.